Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le 17 juillet 1793, en pleine terreur révolutionnaire, on guillotinait Charlotte Corday, accusée du meurtre de Marat. Qui n'a pas en tête le fameux tableau de David représentant le tribun révolutionnaire mort poignardé dans sa baignoire? Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser une jeune fille de 24 ans à commettre un tel acte? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode en deux parties. Première partie, éliminer l'ami du peuple. Nous sommes en fin d'après-midi le 17 juillet 1793. Les mains liées, revêtues de la robe rouge des criminels, signe de honte et d'infamie, Charlotte Corday prend place dans la charrette qui va la conduire place de la Révolution, où elle sera mise à mort. Le trajet dure 3 quarts d'heure, car il faut se frayer un passage à travers les rues noires de monde. Des sans-culottes coiffées de bonnets rouges la suivent en criant. Aux fenêtres, les gens hurlent et applaudissent. N'a-t-elle pas assassiné Marat, le bien-aimé père de la nation? Charlotte Corday a refusé de s'asseoir, elle subit les huées, les railleries, les injures, le tout sous une pluie battante. La charrette finit par arriver au pied de l'échafaud. On aide Charlotte à en descendre. Samson, le bourreau, fait de son mieux pour lui cacher la guillotine le plus longtemps possible. Il est maintenant 18h30 et le soleil fait une timide apparition. Avec sang-froid et résignation, Charlotte monte bravement à l'échafaud. Elle pâlit légèrement en voyant le couperet qui scintille au soleil couchant, mais elle semble vouloir observer la guillotine et, se tournant vers le bourreau, lui dit « J'ai bien le droit d'être curieuse, je n'en avais jamais vu. » Elle s'allonge alors toute seule sur la bascule. D'un signe de tête, Samson indique aux citoyens qui l'assistent d'enclencher le mécanisme. La planche pivote sur son axe, puis d'un coup sec, le couperet s'abat sur le cou de la condamnée. Sa tête tombe dans le panier. Le bourreau a détourné les yeux. Il n'a pas vu que Le Gros, l'ouvrier chargé de l'entretien de l'échafaud, avait saisi par les cheveux la tête de la suppliciée et, la montrant au peuple, l'a giflée. Charlotte Corday, que l'on vient d'envoyer aussi cruellement à la mort, avait été jugée l'avant-veille. Elle a été reconnue coupable
d'avoir méchamment et de dessein prémédité, étant à Caen, formé le projet d'attenter à la représentation nationale en assassinant Marat, député de la Convention, ce qui est contraire à l'article 4, section 3 du titre 1er et à l'article 11, section 1 du titre 2 du Code pénal.
La convention était procédurière. Mais pourquoi Charlotte Corday a-t-elle pris Marat pour cible ce 13 juillet 1793? C'est ce que chacun voudrait comprendre. Depuis le début de l'année 1793, la machine révolutionnaire s'est emballée. Des têtes tombent tous les jours. Désireux d'achever l'œuvre de la Révolution, les membres les plus extrémistes de la Convention nationale veulent purger l'Assemblée des députés qu'ils soupçonnent de mettre en danger la République naissante par leur tiédeur. Je rappelle que la Convention nationale, c'est le Parlement qui, depuis septembre 1792, a succédé à l'Assemblée législative et a proclamé la Première République. Contre les tièdes, donc, il faut frapper fort. Un vent de paranoïa souffle sur Paris. Tout le monde dénonce tout le monde. Pour mettre un coup d'arrêt définitif à la monarchie déchue, on a guillotiné le roi Louis XVI le 21 janvier 1793. Parmi les partisans même de la Révolution, Il se trouve des hommes que scandalisent les méthodes adoptées par les plus radicaux. Dumouriez, le vainqueur de la bataille de Valmy, un vrai héros, eh bien Dumouriez lui-même s'est rallié à la monarchie en avril. Le trio Robespierre, Danton, Marat tempête chaque jour à la Convention. Le premier, véritable apôtre du crime politique, encourage les deux autres à la violence. Danton, de sa voix énorme, expose nommément la liste des traîtres qu'il faut exécuter. Marat exulte des crimes commis et du sang versé. Dans son journal, l'ami du peuple, cet agitateur public, incite le peuple à chasser ce qu'il nomme dans son journal les bêtes puantes et féroces. À eux trois, Danton, Robespierre, Marat, forment une sorte de trinité révolutionnaire qui règne pour saigner le pays au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Cette faction extrémiste de la Convention, qui est constituée de ceux que l'on appelle les Jacobins et les Montagnards, va dès le mois d'avril 1793 être opposée aux protestations courageuses de conventionnels modérés qu'on appelle eux les Girondins. Des modérés ? Mais l'heure n'est pas à la modération. Il va falloir les neutraliser. Se rend-on bien compte qu'en France, la contre-révolution s'organise ? En Vendée, des armées entières se constituent contre la République. La révolution est en danger. Depuis la tribune de la Convention, Danton appelle à la liquidation pure et simple de la population vendéenne.
Les conquêtes et les perfidies des puissances étrangères seront nulles le jour où la Vendée aura perdu son infâme dénomination et sa population parricide et coupable. Plus de Vendée, plus de royauté. Et les ennemis de la République auront disparu. L'autorité nationale portera l'effroi dans ses repères de brigands.
Tandis que Robespierre s'interroge sur le moyen de nettoyer Paris des éléments contre-révolutionnaires, Marat, lui, a placé les Girondins dans sa ligne de mire. Le 20 mai, depuis la tribune, il pointe du doigt ceux qu'il appelle « crapauds du marais » et qui ont pour nom Kerguelen, Valazé, Barbaroux, Pézenas, pour les plus connus d'entre eux. C'est dans ce contexte très agité qu'apparaît en Normandie la jeune Charlotte Corday. La jeune femme ne perd pas une ligne des nouvelles qui arrivent de Paris. Depuis plusieurs mois, elle a déjà pris fait et cause pour les Girondins, donc les plus modérés des représentants de la nation à la Convention. Ayant rencontré le député Barbaroux, elle ne peut d'ailleurs se défendre d'éprouver pour lui autre chose qu'une simple affinité politique. Elle échange avec lui quelques lettres. Soutenir depuis Caen les Girondins est une chose, mais passer à l'assassinat politique en est une autre. Qui est cette demoiselle si déterminée ? Charlotte est née le 27 juillet 1768 à Saint-Saturnin des Ligneries, village de Normandie. Issue d'une famille de la petite noblesse de Caen, elle n'est ni plus ni moins que l'arrière-petite-fille de l'immense dramaturge Pierre Corneille. Son père, personnalité entière et complexe, n'est pas étranger aux idées nouvelles, mais il reste fidèle à l'Ancien Régime. Comme beaucoup d'aristocrates déchus, il a été privé de ses biens, ne possède plus grand-chose et travaille volontiers comme simple paysan. La petite Charlotte a grandi entourée de ses quatre frères et sœurs au château du Mesnil-Imbert, demeure de ses grands-parents qui ressemble davantage à une grosse maison de campagne qu'à un château. Une maison meublée très simplement, mais qui en revanche contient d'innombrables livres, parmi lesquels les œuvres complètes de Pierre Corneille. Tout comme son père, Charlotte se sent un peu entre deux eaux, à la fois étrangère au monde aristocratique et au petit peuple. Abreuvée depuis l'enfance à la lecture des tragédies de Corneille, Charlotte se passionne pour les héroïnes de l'Antiquité. Les guerrières, les justicières comme Antigone, les prophétesses comme Cassandre la fascinent. Charlotte est aussi une jeune femme généreuse. Depuis son plus jeune âge, imitant en cela ses parents, elle a le souci des autres. La demeure familiale est souvent ouverte aux pauvres. Une jeune fille idéaliste et bonne, dont la vie bascule soudain en 1782. À l'âge de 13 ans, elle perd successivement sa mère et sa sœur aînée. Son père doit donc se résoudre à la mettre en pension, ainsi que l'une de ses sœurs, à l'abbaye aux Dames de Caen. Charlotte va y passer près de 10 ans. Durant ses années de formation, elle développe tous les aspects de sa personnalité. L'abbesse a remarqué qu'elle est une fille entière et opiniâtre. Quand elle ne comprend pas quelque chose, il faut impérativement que l'on prenne le temps de le lui expliquer. Et lorsqu'elle a compris, elle y adhère ou non, mais tout entière. Toutes les sœurs ont remarqué également la piété de cette pensionnaire, qui pourtant n'a formulé aucun vœu monastique. Mais elle participe aux offices religieux tous les jours, se confesse, communie. Au milieu des lectures religieuses, elle découvre Rousseau, dont elle n'apprécie pas les romans trop tièdes à son goût. Dans son esprit épris d'absolu, se tisse un mélange complexe où s'amalgament les héroïnes de l'Antiquité grecque, les martyrs du christianisme et les idéaux des Lumières. Il fallait le génie propre au XVIIe siècle pour voir s'unir dans une même âme Andromaque, Sainte Blandine et Mademoiselle de Saint-Yves, respectivement tragique veuve d'Hector de Troie dans l'Iliade d'Homère, martyre chrétienne et personnage d'ingénu créé par Voltaire. Charlotte Corday, c'est un peu ces trois femmes à la fois. La nouvelle de l'abolition des privilèges de la noblesse lors de la fameuse nuit du 4 août 1789 plonge Charlotte dans le ravissement. Dans sa chambre, elle se jette sur son lit et les yeux grands ouverts, se prend à rêver d'un monde nouveau où cohabiteront la justice et l'équité. Ces deux mots reviendront très souvent dans sa bouche. Justice, équité. Par un de ces coups du destin qui décide de certaines vocations, quelques jours plus tard, elle assiste au lynchage d'un jeune vicomte de Caen qui avait pour seul tort de s'être emporté contre les démonstrations excessives de liesse révolutionnaire. Horrifiée, elle voit la populace dépecer le corps de sa victime, arracher les entrailles du cadavre, couper ses mains et ses pieds. Ivre de sang, un ivrogne aidé par deux poissardes tranche la tête du supplicié, l'emmène en faire friser les cheveux chez le perruquier du coin, puis la promène au bout d'une pique par les rues de Caen, forçant les femmes d'apparence noble à l'embrasser. La scène atroce à laquelle assiste Charlotte ce jour-là est un vrai traumatisme. Comment des barbares osent-ils dévoyer, trahir l'idéal de fraternité prôné par la Révolution. En 1791, elle quitte l'abbaye aux Dames et, refusant d'accompagner son père qu'elle trouve décidément trop réactionnaire, elle se réfugie chez une cousine. Loin de ce père qui représente un monde dont elle ne veut plus entendre parler, elle lit Voltaire, Rousseau, les encyclopédistes et la vie des hommes célèbres de Plutarque. Elle le sait à présent. Si la vocation monastique l'a effleurée par le passé, elle a trouvé dans les idées nouvelles, dans la Révolution, l'occasion de prendre part à l'histoire. Cet idéal humaniste, il n'est pas promis au secret des autels, au silence des monastères, à l'obéissance des moines. Non, cet idéal glorieux est appelé à s'incarner dans la Révolution. Et si la vérité existe, elle réside dans le cœur de ceux qui sauront conjuguer la pensée et l'action, le verbe et le glaive, au service des deux idoles qu'elle vénère entre toutes, justice et équité. Si elle a oublié le meurtre du jeune vicomte qu'elle avait vu mettre en pièces à Caen, Les massacres de septembre 1792 la ramènent à une réalité qu'elle a refoulée au plus profond d'elle-même. Du 2 au 5 septembre, à Paris, dans les prisons de la Force, de l'Abbaye et de Bicêtre, des milliers de personnes détenues pour un oui ou pour un non sont égorgées, battues à mort. Charlotte est prise de nausées. Or, il se trouve que quelques jours avant ces atrocités, elle a lu dans le journal « L'ami du peuple », journal du citoyen Marat, les mots suivants.
« Le parti le plus sage serait de se porter en armes à l'abbaye, d'en arracher des traîtres et de les passer au fil de l'épée. »
Qui donc est ce monstre qui défigure les nobles aspirations de la Révolution? Pour elle, il est évident que cet homme est responsable d'une effrayante aliénation des nobles idées des Lumières. Elle se souvient, oui, que c'est bien cet individu qui a réclamé 500 têtes pour assurer le bonheur, le repos et la liberté du peuple, et qui a proposé sur un ton badin d'égorger Lafayette et Bailly, Bailly, le premier maire de Paris sous la Révolution française. Et puis il a proposé aussi
d'empaler les constituants vendus à la cour, d'attacher leurs membres sanglants au créneau de la salle afin d'épouvanter leurs successeurs.
En elle, un projet terrible voit déjà le jour. Elle attend cependant un signal, un geste fort venant de ceux qu'elle considère comme de sa race, les Girondins. Ce signal viendra du député Pézenas qui s'écrie à la Convention
« Faites tomber la tête de Marat et la patrie est sauvée !»
Elle sera l'ange exterminateur qui fera tomber l'ignoble tyran qui menace la Révolution et s'apprête à piétiner l'idéal dont, dans le secret de son cœur, elle a toujours rêvé d'être le bras armé. Comment Charlotte Corday va-t-elle finalement passer à l'action? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode.